En créant mon podcast, j'avais un grand besoin de parler, mais j'avais aussi l'ambition de faire parler. Dans ma vie, je rencontre beaucoup de personnes, et parfois, certaines rencontres furtives n'en sont pas moins intenses. Tout va trop vite, on se croise, on commence à s'entendre, et en un clin d'œil, nos chemins se séparent. Le temps filant et les occasions souvent manquées, mes questions ne dépassent que rarement mes lèvres sur le moment. Grâce à ce podcast, j'ai l'occasion d'inviter des personnes qui ont croisé ma route, qui m'ont touchée à des moments clés, et aujourd'hui, on prend le temps de se re-rencontrer et de partager nos histoires. Alors, bienvenue dans mon podcast La Joie de Camille. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline du blog et Instagram Keep Calm and Listen to Musicals. Nous partageons la même passion pour les comédies musicales et suite au premier épisode Grandir avec le Roi Soleil, la naissance d'une passion pour les comédies musicales, où je raconte mon histoire et celle de mon amie Tiffaine, j'avais envie de découvrir encore d'autres récits où cette passion a pris une grande place. La première personne à qui j'ai pensé est Caroline, qui vit pleinement sa passion. Caroline a vu près de 300 représentations de musicals. Régulièrement, elle prend la route ou s'envole entre France, Londres, New York et autres contrées pour aller applaudir artistes et spectacles musicaux. Nous nous sommes donné rendez-vous pour en parler. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans mon podcast.
Merci.
Je suis ravie de t'avoir parce que en plus, c'est assez dingue de t'avoir en face de moi parce que ça fait... Moi, j'ai regardé, je crois qu'on doit se connaître à peu près depuis 2007, tu vois.
Oui.
Mais se connaître parce qu'on a beaucoup suivi les projets de l'une et de l'autre à travers la comédie musicale, à travers nos projets, en fait, nos projets l'une et l'autre.
Exactement, ouais.
Donc là, c'est trop fou de t'avoir là.
Ouais, c'est la première fois en vrai.
Ouais, c'est la première fois qu'on se rencontre alors qu'on doit se connaître depuis une quinzaine d'années.
C'est ça.
Et ouais, il y a des amitiés des fois qui durent beaucoup moins longtemps que ça, tu vois.
Exactement.
Et des fois, c'est rare d'avoir quelqu'un que tu suis comme ça de loin depuis si longtemps, c'est sympa.
Ouais, de plus ou moins, voilà. Après, c'est comme dans les amitiés aussi. Des fois où tu te vois plus souvent, et puis après, la vie fait qu'on s'éloigne un peu, et puis on se retrouve des années plus tard. Et...
Ouais.
Donc ouais, non, c'est chouette.
Ouais.
C'est chouette quand ça peut perdurer comme ça sur une si longue période.
Ouais. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde à un moment, les rencontres un peu sur Internet. Mm-hmm. Parce que ça, c'est pareil avec le podcast. Il y a des gens que j'ai un peu retrouvés, un peu comme toi, en fait.
Ouais.
Où ça a recréé un dynamisme, en fait, dans les relations, mm-hmm. en fait, tout simplement. Et tout ça grâce quand même à une passion commune. Et ça, je trouve ça chouette, quoi.
Tout à fait.
Et pour autant, on se connaît sans vraiment se connaître. Et moi, j'aimerais bien savoir comment... le spectacle ou la comédie musicale est arrivé dans ta vie. Est-ce que tu te rappelles à quel moment de ta vie c'est arrivé? Comment t'as découvert le monde du spectacle?
Alors, moi je suis tombée dans la comédie musicale en février 2000, enfin déjà un peu avant en fait, avec Notre-Dame de Paris. Ah. J'adorais, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour Notre-Dame de Paris avec la déferlante que ça a été sur les années 98-99. De toute façon, ils étaient partout, on les entendait partout. Belle, le temps des cathédrales. Mmh. Et en fait, mes parents... donc j'ai saigné le CD... Enfin, la cassette. À l'époque, c'était une cassette.
Ouais, ouais.
J'ai saigné la cassette, j'écoutais que ça. J'étais ultra, ultra accro. Et en fait, mes parents m'ont emmenée en février 2000 à Paris voir le spectacle. Et... c'était tout un truc parce que c'était en plus la première fois que j'allais à Paris, donc j'allais voir la Tour Eiffel et tout, et donc on avait été au Palais des Congrès voir Notre-Dame de Paris, et en fait j'avais les yeux grands ouverts comme ça pendant tout le spectacle, c'était trop bien. En fait, ça c'était la première incursion, et du coup après bon, y a eu la période avec les trois spectacles en parallèle, les 10 commandements, Roméo et Juliette et Ali Baba. Là aussi, j'avais été voir Roméo et Juliette, j'aimais beaucoup, j'écoutais tout le temps CD, mais j'étais encore un peu jeune. J'avais, parce qu'en 2000, j'avais 12 ans, donc après, pareil, Roméo et Juliette, 13 ans. Et en fait, il y a eu un véritable tournant au moment du Roi Soleil. Vraiment, le tournant, ça a été le Roi Soleil, parce que là, j'étais déjà un petit peu plus âgée. Et du coup, au-delà de écouter le CD, aller voir le spectacle, il y avait tout ce qui s'était développé autour du spectacle à l'époque. Les forums, les blogs. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait plein de gens avec qui tu pouvais discuter de ce qui t'animait et de ce spectacle et d'autres choses autour. Mmh. Et en fait, c'est là que moi j'ai eu le virage à 180 degrés et où je suis allée voir plusieurs fois, j'ai fait plusieurs dates sur la tournée, je suis montée à Paris, alors ça aussi, première fois que je suis montée toute seule à Paris, c'était le grand événement. Et j'avais 18 ans, donc bon, mmh. c'était... Et c'est là où vraiment je me suis dit... Il y a cette dimension magique sur scène, mais il y a plein de choses aussi hors scène qui se développent. Et c'est ça qui m'a vraiment accrochée, je pense, en fait.
Donc, t'as pas été trop, trop fan des spectacles avant, mais t'avais quand même été les voir. Ça t'avait pas déclenché une passion comme au moment du Roi Soleil, quoi. Enfin...
Je pense qu'en fait, si j'avais pas été... Avant, peut-être sur Roméo et Juliette. Après, j'avais pas l'âge non plus de plus. Tu vois, j'étais vraiment plus jeune. Enfin voilà, à 12-13 ans, tu fais pas grand-chose. T'es fort dépendant de tes parents. Et donc, après, si, j'écoutais les CD tout le temps. Je jouais le spectacle à moi toute seule dans ma chambre. Enfin voilà. Et j'étais vraiment déjà passionnée par ça. Mais c'était vraiment... les chansons, parce que Notre-Dame, bon, je l'ai vu beaucoup de fois depuis, mais à l'époque, je l'ai vu qu'une fois. Roméo et Juliette, quand c'est sorti en 2000, je l'ai vu qu'une fois. Donc, j'étais fort sur cette dimension chanson, audio. J'avais pas forcément la composante, j'avais pas forcément la totale, entre guillemets, on va dire, de la comédie musicale, parce que t'as l'aspect musique et t'as l'aspect visuel, décor, costume, chorégraphie, qui est extrêmement important dans ce domaine-là. Et ça, je l'avais moins. Donc, en fait, je pense que j'avais finalement que la moitié de l'expérience.
Ouais, peut-être que tu t'en es rendu compte à ce moment-là aussi. Bah, justement, qu'il y avait des danseurs, des comédiens.
C'est ça.
Moi, je me rappelle que c'est toi qui m'as fait prendre conscience de ça sur Internet. parce que du coup, justement, on s'est rencontrés au moment du Roi Soleil sur les blogs et les forums et compagnie. Et c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que t'as participé aussi à me faire prendre du recul et à me faire grandir aussi, parce qu'au début j'étais, pour le coup, j'avais 13 ans quand j'ai découvert le Roi Soleil, et j'étais dans un truc un peu malsain de « c'est mes idoles, ils sont merveilleux, ils sont parfaits ». Et j'ai vraiment un souvenir où j'avais fait un blog qui était catalogue de photos de tout ce que je trouvais. Et à chaque photo, je mettais un petit commentaire un peu débile de petite fille de 13 ans. Et je me rappelle qu'il y avait une photo où j'avais mis un commentaire un peu méchant. Ça devait être Christophe Maé à côté de Lisa Ansaldi et d'autres personnes. Et j'avais mis un petit commentaire méchant en disant ah mais Lisa elle est encore à côté de lui, peut-être j'ai dû dire peut-être cette peste ou un truc un peu méchant. Et c'est la seule fois que j'ai écrit un truc comme ça. Et toi, tu m'as posté un commentaire hyper bienveillant en me disant bah écoute, c'est pas très sympa d'écrire ça, Lisa c'est une personne, elle est autre chose en dehors de son personnage, parce qu'en plus Lisa joue la méchante, et moi là j'avais juste un truc de jalousie, tu vois, un peu mon idole et tout. Et toi tu m'avais écrit un commentaire hyper bienveillant, et ça m'avait fait switcher. En plus de, j'en parle dans l'autre épisode que j'ai fait avec Tiffen sur la comédie musicale, en plus du documentaire de Tony Pascal, où les artistes quand même disaient des choses hyper fortes sur le fait que qu'il pouvait y avoir des fans hystériques et que en fait ils avaient un peu le que pour elles c'était un peu les princes charmants et alors qu'en fait c'était juste des mecs dans un spectacle.
C'est ça.
Et toi tu m'avais vraiment ça avait vraiment participé à me faire grandir, je te jure.
C'est fou, j'ai aucun souvenir de, tu vois, pas du tout.
Bah moi j'ai vraiment ce souvenir que tu sois venue me chercher, mais en plus sans me disputer ou sans animosité, vraiment, en me disant écoute, là peut-être que c'est pas très bien ce que tu écris et que ça peut blesser une personne et que...
C'est vrai que moi en plus j'étais très sensible à ça à l'époque, parce que Elisa jouant la méchante et finalement elle avait un rôle assez un peu moins développé peut-être que les trois autres filles du spectacle. Et puis je sais pas, moi j'aimais bien, j'aimais bien ce qu'elle dégageait, j'aimais bien sa voix. Et puis en plus c'est vrai qu'ils avaient fort fort caricaturé la Montespan dans le spectacle. Bien sûr, j'avais même lu un bouquin, le truc, je sais pas, il devait faire 500 pages, une biographie de la Montespan. Mais juste voilà, pour comprendre en plus un peu plus du personnage. Ouais. Et en fait, au final, à la fin, ça m'énervait même que ce soit à ce point-là caricaturé dans le spectacle, même de maintenant la gentille, la Montespan, la méchante, alors qu'en fait, dans la réalité, c'était pas du tout, du tout comme ça. Mais c'est marrant, j'ai absolument aucun souvenir de ça.
Mais oui, mais je me souviens que j'avais lu quelques. Quelques historiens qui étaient horrifiés de ce qui était fait dans ce spectacle-là, mais oui, parce que tout est romancé, tout était basé que sur les histoires d'amour, et...
Ouais.
Et voilà, bon, il y avait quand même... Je trouve que c'était quand même important, parce qu'ils ils parlent quand même de la fronde, ils parlent quand même des excès que pouvait avoir le roi et tout ça, donc moi, ça m'a apporté quand même des connaissances qui sont assez justes, je pense, mais je me souviens que les... Ouais, que les férus d'histoire étaient horrifiés par ce qui se passait dans le spectacle.
Après, je peux les comprendre maintenant. Maintenant, il faut le prendre pour ce que c'est. Et je trouve ça dommage qu'on s'insurge à ce point-là, parce que ça peut être un point de départ aussi pour faire découvrir des choses aux gens. Je pense que si j'avais pas vu le Roi Soleil... Ok, Louis XIV, tout le monde le connaît, on a tous parlé de lui dans nos cours d'histoire, mais je veux dire, l'histoire, Madame de Maintenon, Madame de Montespan, etc. Voilà, et je pense que d'ailleurs, ça peut amener à... comme là, tu vois, je te dis, j'aurais jamais lu un livre de 500 pages sur la Montespan si j'avais pas vu le Roi Soleil et que j'avais pas voulu en savoir plus.
Mais même moi, à l'école... Les cours d'histoire, quand on arrivait sur cette période-là et qu'on nous parlait d'Anne d'Autriche, de Colbert... Ouais. Moi, je savais complètement de qui on parlait, en fait. Et j'étais fière de ça. Je me disais, en fait, c'est chouette qu'un spectacle puisse aussi t'apporter des connaissances. Exactement. C'est que du plus-value, quoi. En plus de toute la magie et tout ça. Voilà, c'est chouette, ouais, d'apprendre des choses sur des personnages.
Bien sûr. Puis bon, après, ils n'ont jamais eu la prétention de nous donner un cours d'histoire non plus. Ouais. Donc, il faut, faut le prendre pour ce que c'est. Et ça reste un divertissement avant tout. Et... libre à chacun ensuite de vouloir creuser plus ou de s'en tenir à...
Oui, non mais totalement. Et puis les gens, ils sont là, c'est du divertissement aussi, hein, donc ils sont...
Bien sûr.
Voilà, chacun prend ce qu'il veut prendre en fait.
Tout à fait, tout à fait.
Et pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, que toi, tu t'es certainement rendu compte qu'il n'y avait pas que des chanteurs dans le spectacle. Je te disais aussi que c'était aussi toi qui m'avais fait découvrir ça, je pense. Parce que justement, tu étais, toi aussi, tu faisais des blogs et des forums sur des danseurs. Tu soutenais énormément les doublures, les comédiens. En fait, tous ceux qui étaient dans l'ombre un peu, en fait.
Exactement.
Et ça, je sais que c'est toi qui m'as... Étant donné que moi, je connaissais pas le milieu de la comédie musicale, je savais pas ce que c'était un spectacle, c'est toi qui m'as montré un peu, avec ce que tu produisais sur Internet... qu'il y avait d'autres personnes et qu'en fait c'était un tout, qu'il n'y avait pas que 7 chanteurs qui font des promos à la télé, quoi. Et qu'en fait chacun a son importance, chacun a son rôle. Et je me souviens que, notamment c'était sur un forum, je crois, le forum officiel du Roi Soleil, où j'avais lu que les doublures, quand elles arrivaient au Palais des Sports, elles se faisaient huer. Oh, j'avais lu
horrible, ça.
Et ça m'avait... ça m'avait choqué, quoi. Et c'est toi, ton discours m'avait encore plus je m'étais dit il faut que je suive ce qu'elle raconte, parce que elle est dans le vrai, quoi. Et c'est vraiment ça, un spectacle musical complet, tu vois, avec 60 artistes sur scène, en fait.
Après je pense que c'est aussi, déjà quand tu ne connais pas, tu t'arrêtes à ce qu'on te montre. Et aussi par rapport à l'âge, parce que tu vois, toi tu disais que tu avais 13 ans au moment du Roi Soleil. Moi, c'est l'âge que j'avais pour Notre-Dame de Paris. De Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès, je me souviens très bien des chanteurs qui étaient sur scène. Je n'ai aucun souvenir des chorégraphies et des danseurs, parce qu'en fait, à l'époque, moi c'était mon premier. J'ai été complètement éblouie par CEUX que le spectacle met en avant au premier plan. Et t'as pas, je pense, à ce moment-là, t'as pas forcément le recul pour voir derrière l'ensemble. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Et ça, tu vois, bah, c'est seulement au troisième spectacle que je me suis dit, ah oui, il y a quand même pas mal de choses qui gravitent autour.
Ouais, surtout Notre-Dame de Paris. Enfin, moi, je l'ai vu en 2016, je pense.
Ouais.
Quand ils sont revenus en France, qu'ils l'ont remonté.
Cette période-là, à peu près.
Et les danseurs, c'est... Ça, pour moi, ça faisait tout le spectacle.
Enfin, et puis ils ont une
énergie.
Ils ont une équipe de dingue.
Ouais.
Ils ont une équipe vraiment de dingue. Et j'avais... c'est vraiment eux qui portent le truc.
Et
en fait, j'avais discuté avec... Quand j'avais été voir Notre-Dame à New York, comme c'était la première à New York, toute l'équipe créative était là. Donc en fait, après, j'avais pu discuter avec Gilles Maheu, avec Martine Omuller. Et j'avais dit à Martine, je dis... Vous avez une équipe de fous. Il me dit, ouais, c'est dingue, t'as vu ça? J'ai plus rien à faire. Ils sont tellement géniaux. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils sont fantastiques. Et il me dit, moi, j'ai plus rien à faire, quoi. Ils sont tellement super. Ça apporte vraiment un plus.
Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, toi, à quel moment t'as découvert les spectacles, justement, de Broadway et de Londres? Parce que ça, c'est une grosse différence entre nous, parce que moi, je suis restée très... comédie musicale française et j'ai aucune culture de ce qui se passe à Londres et j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où il y a eu un revirement de situation.
Exactement. En fait, le shift il s'est fait en 2009-2010.
D'accord.
Quelque chose comme ça. Avec la série Glee.
Ok.
En fait, parce que j'ai commencé à regarder Glee. Et ils ont repris, et ils reprenaient très souvent des chansons de comédie musicale parce que Léa Michel, qui est interprète de Rachel Berry, vient de Broadway, a une voix qui est faite pour Broadway. Et donc elle chantait énormément de morceaux de comédie musicale anglo-saxonne sur la série, et notamment Defying Gravity de la comédie musicale Wicked. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette chanson. Et j'ai voulu creuser. Et puis, une fois que j'étais tombée dedans, là aussi, c'était fichu. Et j'ai commencé à écouter déjà deux, trois albums en boucle. Il y avait Wicked, il y avait Legally Blonde, l'adaptation musicale de La Revanche d'une Blonde. Il y avait Spring Awakening, parce que Léa avait joué dans Spring Awakening. Mais vraiment, Wicked, je me disais...
C'est un spectacle. Un gros coup de cœur pour toi.
Et donc en 2010, je suis allée à Londres pour la première fois en 2010 avec une amie, mais on n'avait pas été voir de spectacle parce que c'est pas trop son truc.
Ouais.
Et c'était très drôle parce qu'on était dans un hôtel à côté de l'Apollo Victoria où se joue Wicked. Donc on passait devant tous les jours quand on partait découvrir Londres et sans y aller. Et du coup, je m'étais dit non, mais c'est pas possible. Enfin. Il faut que je revienne. Et donc, j'étais revenue début 2011 voir Wicked. Et au-delà du spectacle en lui-même, c'est là que j'ai pris conscience de toute la dimension qu'on retrouve. Ils ont complètement une autre culture de la comédie musicale là-bas. Et tout est plus... le niveau vocal.
Ouais.
Le niveau vocal n'est pas le même. Alors... On y vient doucement en France si on prend des castes comme ceux de Starmania par exemple, on a quand même du sacré niveau, qui n'ont rien du tout à envier aux anglo-saxons. Il y a cette dimension magique. Après, eux, ils sont dans des théâtres à demeure, ils jouent le même show dans le même théâtre pendant 10 ans, donc ils peuvent développer beaucoup plus de choses, alors que jusque-là en France c'était des spectacles qui étaient voués à faire une très courte saison à Paris, généralement quelques mois, et ensuite à partir en tournée. Donc forcément t'es un peu plus limité dans ce que tu peux faire visuellement parlant.
Ouais, et puis c'est pas les mêmes contraintes, un spectacle qui va bouger qu'un spectacle qui va rester dans le même théâtre.
Exactement. Ouais. Donc du coup c'est là que j'ai pris conscience de toute l'immensité de l'univers anglo-saxon, et que là j'ai commencé vraiment à aller en voir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus.
Ouais, et puis vraiment de tout, un peu de tout en fait. J'ai l'impression que tu vas voir, même juste par curiosité, pour l'amour de la culture de la comédie musicale en fait, j'ai l'impression.
Oui, après moi j'ai un peu plus de mal avec les spectacles classiques, ouais. C'est-à-dire les... Moi j'ai commencé vraiment à accrocher aux spectacles à partir des années 80, qui ont été produits à partir des années 90. D'accord. Avant, les trucs un peu genre 42nd Street, ouais. Oklahoma,
oui, oui.
Anything Goes. Ceux-là, pas Oklahoma, les deux autres, je les ai vus une fois, j'y retournerai pas.
Oui, oui.
C'est pas, voilà, c'est soit parce que bon, c'est un style musical qui m'attire pas plus que ça, soit comme dans le cas de 42nd Street, visuellement c'est magnifique, mais d'un point de vue contenu, ça a pas forcément ouais. bien vieilli. Une chanson entière de 3-4 minutes sur l'importance d'être jeune, mince et jolie.
Ouais.
Dans le monde où nous vivons en 2023, c'est pas forcément quelque chose qui me parle beaucoup.
Ouais.
Mais. J'essaie d'aller voir un peu. Et pourtant, je trouve que je reste encore très dans ce que je connais et que je vais
ah ouais
pas. Ouais, je connais des gens qui vont beaucoup plus facilement voir plein de choses, des pièces, des comédies musicales, etc. Moi, je reste quand même dans ce que je connais. Je vais...
Et comment tu choisis alors quel spectacle tu vas voir?
Ça dépend. Moi, j'ai très l'aspect auditif, musique, voix. Donc, j'essaye d'écouter un peu un ou deux morceaux, voir si au niveau de la couleur musicale, c'est quelque chose qui me parle ou pas du tout. Par exemple, il y avait un spectacle là à Londres sur la vie de Bob Marley, Get Up Stand Up. Le reggae, c'est quelque chose qui m'a jamais forcément trop attirée, donc j'y suis pas allée.
Ouais.
Voilà, parce que musicalement, je n'étais pas certaine de m'y retrouver. J'ai peut-être fait une erreur, hein. Voilà. Après, sinon, ça dépend des gens aussi qui sont dedans.
Ouais.
Parce que parfois, je vais voir un spectacle pour une personne que je ne serais absolument pas allée voir autrement.
Ouais.
Et bah, parfois, c'est des bonnes surprises. Et puis parfois, ouais. je me prends un mur et je ressors en me disant « Je viens de perdre 2 heures de ma vie. Bon, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. »
Mais non, c'est vrai que moi je suis pareil que toi, j'aime beaucoup, je choisis souvent des spectacles par casting.
Ouais.
S'il y a une personne qui me plaît, que j'ai envie de voir sa palette de jeux, un autre personnage. Et des fois, ouais, j'y vais vraiment que pour le cast.
Ouais, c'est ça.
Et bon, après, c'est sûr que le sujet et tout ça, il y a des spectacles que je vais pas voir, même s'il y a des gens que j'aime bien dedans. Mais je sais que ça c'est un point commun qu'on a de vraiment
il y a 7 artistes peu importe dans quoi ils jouent, j'y vais parce que c'est des gens dont j'aime la présence, j'aime la voix et que je peu importe, enfin il y en a un, il pourrait me chanter l'annuaire en tutu rose sur l'air de la danse des canards, je dirais que c'est génial parce que voilà, je suis sûre qu'il saurait le rendre génial, mais ouais, c'est très très attachée au casting, c'est vrai.
Ouais. Mais moi, j'ai essayé un peu, j'ai pas du tout cette culture de... Bah, j'ai vraiment que la culture comédie musicale française, ou alors j'attends les adaptations au Théâtre Marigny ou au Théâtre Mogador. Et là, c'est vraiment chouette de découvrir des gros, gros spectacles, d'ailleurs. J'ai essayé justement d'écouter Wicked et tout ça, parce que vraiment, il y avait eu... Voilà, ce gros truc dans ta vie qui était arrivé en mode, mais c'est un délire.
Ah ouais, complètement.
Et moi, j'arrive pas trop à accrocher, forcément. J'ai l'impression que c'est vachement plus... pas choral, mais vraiment des grandes, grandes voix. Et je sais pas, qu'est-ce qui te plaît? Comment toi, tu pourrais essayer de me convaincre qu'il faut que je creuse, tu vois?
Après, je pense que... Je pense que c'est très propre à chacun et ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Qu'est-ce que chacun va chercher dans une comédie musicale? Moi, tu pourras me mettre le plus beau décor, des costumes de fou, un ensemble, des chorés endiablés. Si ça chante faux ou si ça chante limite, non, ça va pas me plaire. Moi, c'est vraiment cette dimension... puissance vocale, technique vocale, c'est ça qui me... Moi, c'est ça qui me met les frissons et qui me fait me dire waouh. Après, il ne faut pas en faire trop non plus, qui est la tendance un peu parfois ces derniers temps. Mais donc moi, c'est sûr que c'est ça qui m'a attirée qui m'a accrochée au début.
Ouais.
Et après, c'est tout le reste, une fois que je l'ai vu sur scène, qui m'a fait rester, entre guillemets, parce que là aussi, surtout dans Wicked, l'élément visuel est incroyable. Mm. Enfin, la richesse des costumes, des décors, c'est complètement fou.
Oui, oui.
C'est complètement fou.
Ouais.
Et il y a énormément de choses dans les mises en scène de spectacles anglo-saxons. Enfin, quand tu vois que, par exemple, sur Miss Saigon, ils te font arriver un hélicoptère dans la salle, t'es là en mode, mais quoi ? Ouais. Ça vient d'où, ça ? Donc, ils vont très loin. Ils vont très, très loin dans l'élément visuel et dans les possibilités. Nous, on a pas mal de retard en France par rapport à ça. Mais parce que, on en revient toujours à ça, c'est que là, ça change un peu, hein, parce qu'avec Marigny, Mogador, où t'as des spectacles qui font des saisons complètes, donc tu peux te permettre de faire un peu plus de choses. Donc là, c'est ça qui est chouette, ça commence à bouger un petit peu de ce côté-là.
Ouais, puis c'est pas la même culture. Enfin, moi, j'ai carrément du mal à imaginer qu'un spectacle puisse être depuis des années dans un même théâtre et qu'il y ait un public présent. Parce que nous, en France, c'est limite, on a du mal à remplir les salles parfois, enfin, ça dépend des spectacles.
Ouais.
Mais la culture de la comédie musicale, elle est en train de grandir quand même. Enfin, il y a de plus en plus de choses qui se passent en France.
Ouais,
mais
elle grandit et elle se transforme en fait, parce que si tu regardes les comédies musicales, quand nous on était il y a 15 ans en arrière, Roméo et Juliette, Le Roi Soleil, etc. Je reviens du coup sur le sujet des doublures. On faisait la promo d'un cast. Le spectacle reposait sur le casting et on mettait en avant le casting et les gens venaient voir les chanteurs qui avaient fait la promo à la télé et qu'on entendait sur les radios et moi je me souviens quand j'avais été voir Le Roi Soleil à Paris, Emmanuel Moir était malade ce soir. On était au premier rang avec la copine avec qui j'étais et donc en fait quand Louis XIV arrive sur Être à la hauteur, on sentait l'appréhension d'Emmanuel Dahl. On sentait l'appréhension sur les premières secondes parce que, et on en parlait tout à l'heure, c'est pas du tout dans la culture française d'annoncer qui joue sur scène. On laisse le public découvrir qui est sur scène et donc tu sentais l'appréhension de me dire comment ils vont réagir quand ils vont voir que je suis pas entre guillemets le vrai. Et donc c'est pour ça que en fait à l'époque, ben une fois que la tournée était terminée, on repartait pas avec un nouveau casting, alors que on le voit arriver là par exemple, tu vois, si tu prends le Roi Lion, ils vont entamer leur troisième saison à Mogador avec un casting qui va se renouveler et ils vont quand même encore remplir les salles. Il faut quand même encore remplir la salle. Et puis il y a quelques années, ils ont fait super longtemps. La toute première fois qu'ils ont joué le Roi Lion à Mogador, ils sont restés super longtemps. Et aux États-Unis, en Angleterre, il y a beaucoup moins de promos télé aussi, hein, que nous on pouvait avoir à notre époque aussi. Et donc tu vas voir le spectacle, tu vas pas voir le casting. En fait, je crois que la différence fondamentale, elle est
d'accord.
Là.
Okay.
Sauf évidemment si tu commences à faire du stunt casting en essayant de récupérer des célébrités pour jouer un rôle dans un spectacle pour lui redonner un petit peu d'élan et booster les ventes de tickets. Mais sinon, les gens vont voir le spectacle.
Bah après, c'est ce qu'ils ont beaucoup fait en France aussi, hein, de prendre des célébrités
bien sûr
pour que les gens viennent voir la célébrité et pas le spectacle en fait. Et ça n'a pas toujours marché.
non, bien sûr. Parce que
justement, c'est autre chose, une comédie musicale.
C'est ça. Et puis, il y a des shows qui se sont basés justement sur leur tête d'affiche. Je pense notamment à Robin des Bois.
Oui, voilà, tout à fait.
Voilà, c'était... Et tu le sentais, en fait. Les gens ne venaient pas voir Robin des Bois, ils venaient voir Matt Pokora dans Robin des Bois. Et je pense que le pauvre Florent, il a dû jouer Robin une fois sur tout le run, parce que... Il savait très bien que et la production savait que les gens venaient voir Matt.
Mais totalement.
C'est un autre mindset, une autre façon de penser. Mais ça change, c'est assez cool.
Après, c'est aussi sympa d'avoir des célébrités qui sont prises et qui se renouvellent et qu'on peut voir dans des comédies musicales. Hein.
Bien
ça,
sûr.
C'est, ça,
bien
c'est,
sûr.
Ça peut
après,
être chouette aussi.
Après,
pas tout reposer
là-dessus. Moi, Robin des Bois, je l'ai vu. Il a fait très bien le job, hein, Matt Pokora.
Tu l'as vu.
Ah oui, j'ai vu, il était très bon dans ce qu'il sait. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Ce qui m'a gênée, en fait, c'était vraiment que le truc était construit autour de lui. Le spectacle était construit autour de lui. Quand Robin arrive, il fait des acrobaties là, dans les décors pendant, allez, bien 2 minutes, 2 minutes 30. Et tu étais là en train de le regarder, juste lui, rien d'autre hein, sur scène. Hein, lui qui est en train de faire ses acrobaties. Il le fait très bien et il n'y a pas de problème, mais. Voilà, c'était vraiment dans la construction du... Il avait déjà ce facteur célébrité. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter encore avec la mise en scène et la construction du spectacle. Voilà, tant qu'il, entre guillemets, il a volé la place de personne.
Non.
Qui aurait mieux chanté ou mieux dansé.
Oui, c'est très bien. Oui, c'est sûr. Et je voulais revenir aussi sur le fait de rencontrer des gens sur Internet. Ouais. Ça, j'avais envie parce que tu m'en avais parlé dans un vocal, je crois, où on s'est envoyé des messages. Et où tu m'avais dit qu'en fait, qu'il y avait des gens que tu avais rencontrés sur Le Roi Soleil qui faisaient toujours partie de ta vie, mais de manière vraiment forte, quoi. Et ça m'avait vachement émue. Je sais pas si tu peux le raconter.
Alors, effectivement, à l'époque du Roi Soleil, il y avait... Bon, les forums étaient super, super développés, et d'abord les blogs, puis moi j'ai rencontré pas mal de gens en fait comme ça, via des blogs, et puis on s'est retrouvés sur les forums.
Oui, parce que à cette époque-là, ce qu'il faut rappeler, s'il y a des gens qui écoutent qui sont plus jeunes, il n'y avait pas de réseaux sociaux, non. Je crois qu'il y avait un début de Facebook, mais en fait, même pas.
Sur la fin du Roi Soleil, c'était les débuts de MySpace.
Voilà, il y avait MySpace. Ouais. Il y avait MySpace, et où c'était la première fois qu'on pouvait écrire à des artistes. Ouais. Et après, en tout cas, les artistes en fait, n'avaient pas de site, sauf s'ils étaient vraiment des artistes très connus et qu'il y avait des gens derrière qui pouvaient gérer des sites et tout ça. Mais par exemple, voilà, des artistes de comédie musicale, ils n'avaient pas forcément de site. Et en fait, c'est vraiment les communautés de fans qui avaient créé des forums pour divulguer les informations, créer de la discussion et justement créer cet engouement aussi. C'est ça aussi qui a vachement peut-être changé, enfin, qu'il y a eu un truc qui s'est passé avec Le Roi Soleil, c'est qu'il y a eu tout ça qui s'est mis en place avec Internet, en fait, tout simplement.
C'est ça.
Et où on a pu se rencontrer entre fans et partager une passion, quoi.
Exactement. Exactement. On était un groupe de 6-7. Il y avait 6-7 personnes avec qui vraiment... on se retrouvait sur les forums, mais on se parlait sur MSN encore à l'époque. On avait nos numéros, etc. On avait... Certaines vivaient dans ma région, plus ou moins loin. Moi, je suis de l'Est de la France. Et donc, on s'était rencontrés sur une date. On s'était parlé pendant un bon moment sur les blogs, les forums MSN. Et puis, quand le Roi Soleil était venu faire une date dans l'Est, on avait été à la même séance et on s'était retrouvés. Et puis, après, sur les autres comédies musicales. Et puis, du groupe de 7, on a tout évolué, on a tout grandi.
Évidemment.
La vie est passée par là. Et puis, il y a des personnes, une après l'autre, qui sont un peu plus éloignées. Mais on est un noyau de 3 qui sommes restés. Et on a continué à se parler, on a continué à se voir. On a fêté nos 10 ans quand on avait été voir le roi Arthur. 10 ans après, on avait été le voir ensemble. Et on continue à se voir. Alors, pour aller voir des spectacles ou pas, on se fait des week-ends. On s'est vu il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines.
Ouais.
On est parti à Mulhouse pour le spectacle des retrouvailles là, avec tous les chanteurs de comédie musicale qui sont sur la même scène et qui reprennent les chansons de l'époque, et on continue, c'est une amitié forte, et elle a pas diminué avec le temps. Et une amitié qui s'est construite autour d'une passion finalement a pris de l'ampleur et a dépassé ça, parce que quand on se retrouve, on ne parle pas que de comédie musicale, et on a transposé cette amitié au-delà de la comédie musicale, en fait.
Mais oui, évidemment. Mais c'est ça que je trouve beau, en fait, qu'une passion puisse créer ce genre de choses dans une vie, en fait, enfin, que ça aille justement au-delà de la passion, mais que ça soit de ça que ça parte, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, qu'une passion, et notamment là, pour dans ce cas-là de la comédie musicale, puissent faire des rencontres et qu'en fait, 10 ans après, tu te dis, mais en fait, ces gens-là, ils sont toujours là. c'est trop bien.
Ouais, c'est ça. C'est trop bien. C'est ça, et pourtant, c'était pas gagné, hein. Franchement, ouais. c'était pas gagné. Parce
que... les gens, ils sont pas forcément passionnés comme ça toute leur vie.
Voilà, et puis, géographiquement,
ouais,
on n'est pas forcément aux mêmes endroits. Et c'est vrai que les deux personnes dont je parle, on est toujours resté dans un rayon géographique assez restreint. On reste sur la région Grand Est, Alsace-Lorraine, et pas tellement plus loin. Donc, on a toujours été finalement à... maximum 2 heures les unes des autres de trajet. Ça facilite, ça évite que les liens se distendent trop. Et c'est vrai que même si on se voit sans aller voir de spectacle, régulièrement, on va quand même voir des spectacles et je les emmène du côté obscur de la force. C'est souvent ces moyens. Venez, on va voir ça.
Ouais.
On va voir ça. Donc on doit se retrouver en novembre pour Notre-Dame de Paris, à Paris.
Ouais. Bah voilà, ça donc, continue.
Voilà, ça continue.
Mais je trouve que une passion commune, ça quand même ça crée forcément un lien. Enfin moi je me souviens, moi j'ai pas gardé de personne en particulier. J'ai eu quelques amitiés fortes, mais que j'ai plus aujourd'hui au moment du Roi Soleil, ouais, et grâce à cette passion là quoi. Et je me souviens, pareil, la journée, j'avais mes copains, je me rappelle, j'étais au collège, j'étais dans un groupe d'amis, c'était génial. Mais le soir, je sautais sur MSN pour parler avec mes copines de comédie musicale. Et il y avait vraiment un truc de... presque de... j'aimerais être avec elles tout le temps, tu vois. Enfin, parce qu'il y a vraiment le truc de... de la passion commune, ça engendre plein de choses. Et évidemment qu'on parlait pas que de comédie musicale pour autant.
Ouais.
Mais le fait d'avoir un truc en commun aussi fort, ça crée quand même quelque chose de, ouais, de fort. Enfin, je sais pas comment
dire.
Ouais,
et puis je pense que surtout quand t'es à fond dans ta passion, t'as envie de la partager, envie d'en parler. Et les gens qui ne la partagent pas, à la limite, c'est parfois presque un peu frustrant de pas pouvoir parler de ça avec eux. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que tu te jette un peu la tête la première dès que tu trouves quelqu'un avec qui tu peux échanger et avec qui tu peux partager ça et qui va savoir de qui tu parles quand tu vas dire un tel va sur tel spectacle tu vois, moi je vais dire ma meilleure amie n'est pas du tout de comédie musicale, quand je vais lui dire il y a un spectacle qui se remonte avec Merwan Rim, Marjorie Assionne et Lydia de Juniac pour reprendre des anciens du Roi Soleil. Elle va pas savoir de qui je parle.
Bah oui.
alors que mes copines de comédie musicale, quand je vais leur dire il y a le spectacle des retrouvailles, il y a Merwan, mais il y a aussi je vais même pas citer les noms de famille. Leur dire il y a Marjorie et Lydia, elles vont tout de suite percuter de qui je parle. Et donc c'est ce côté un peu. C'est ce côté plaisant et je pense que c'est pour ça aussi qu'on... Surtout qu'on était jeunes à l'époque, ça nous faisait du bien de parler de notre passion avec des gens. Passion qui était parfois moquée par les autres personnes et les autres groupes d'amis de la vraie vie, entre guillemets. Quoi.
Ouais. Toi, t'avais subi ça un peu, des moqueries
Alors, pas forcément par rapport à la comédie musicale... Moi, j'ai subi des moqueries par rapport aux amitiés que j'ai nouées.
Ah ouais ?
Par rapport aux amitiés que j'ai nouées. Par rapport... parce que, comme je te dis, il y avait une différence d'âge. Et donc, j'avais une copine de fac à l'époque. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu fous avec des nanas comme ça ? Dans 6 mois, vous ne vous parlerez plus. Enfin, qu'est-ce que tu perds ton temps, entre guillemets, avec des gens comme ça ? Alors... très ironiquement, la personne qui m'a dit ça ne fait plus partie de ma vie aujourd'hui, alors que les autres, ils sont toujours 15 ans après. Donc.
Ouais.
Voilà, mais après, c'est vrai que la comédie musicale a toujours eu cette image, entre guillemets, soupe commerciale, un peu gnangnan, ça. Donc, du coup, j'en parlais pas trop. J'en parlais pas trop, ce qui m'évitait de recevoir des moqueries par rapport à cette passion.
Oui.
Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire.
Ah non, mais ça, c'est vrai que c'est un vrai changement. Moi, quand j'étais plus jeune, j'en parlais pas, en fait. Mm. Je parlais pas de ma passion et je parlais pas du fait que j'ai des amis sur Internet. C'est un peu...
C'est ça.
Tu vois, ça créait tout de suite un truc un peu bizarre, quoi. Ah bon, tu parles à des gens sur Internet et en fait... Toi, t'es là, mais en fait, je les considère vraiment, quoi. Enfin,
ouais.
Ça devient important, en fait. Enfin...
Ouais. Oui, moi, le lien que j'avais avec elle, bon, après, enfin, je veux dire, c'est des personnes que je porte toujours tout autant dans mon cœur, hein, bien sûr, mais c'est vrai que quand t'es jeune, t'as ce côté un peu extrême, tu vois.
Ouais,
t'es totalement. Voilà. Et je disais, mais ouais, c'est pas grave, on n'a pas le même sang, mais c'est comme mes sœurs. Vu de l'extérieur, je peux comprendre maintenant, avec du recul, que ça paraisse bizarre.
Oui, j'avoue. C'est chouette. Et puis ouais, c'est ce que je te disais, c'est que avec le podcast, il y a comme toi où j'ai enfin pas forcément le podcast, mais le fait que toi aussi tu as eu des projets, bah tu fais un blog, tu fais un Instagram où tu postes des photos de comédie musicale et c'est vrai que ça a renouvelé un peu le truc de ah bah tiens, j'ai envie de voir ce qu'elle fait et tout ça et ça a remis un peu des pièces dans la machine.
Ouais, bien sûr.
Et il y a eu d'autres personnes que j'ai connues grâce au soleil et où pareil, on s'était jamais perdu de vue. Mais voilà, tu t'appelles pas toutes les semaines pour dire bah toi qu'est-ce que tu deviens et là ça a remis un peu des trucs de ah bah c'est chouette bah voilà par exemple l'épisode sur le roi soleil j'avais trop hâte qu'elle les écoute quoi
j'ai, oui.
Donc ouais ça c'est chouette que c'est des gens que tu connais de loin comme ça mais ça te fait quand même hyper plaisir de bah voilà d'avoir la suite de vie et de toujours partager en plus voilà enfin en fait ceux qui restent c'est ceux qui sont toujours passionnés
Ouais, et je pense qu'il y a un gros facteur nostalgie en fait.
Ouais, aussi. Bah.
Je pense qu'aussi ça a été une très belle période. Il y a eu des, il y a eu des mauvais côtés, mais ça reste pour beaucoup de gens qui l'ont vécu. Très très belle période, très belle aventure, et beaucoup de beaux souvenirs.
Ouais.
Et donc ça permet de se replonger dedans et de revivre un peu. D'essayer de revivre un petit peu une partie de ces souvenirs. Et c'est pour ça que là, les deux spectacles de collectif, d'un comédie musicale qui tourne en ce moment et qui remplissent les salles et qui arrêtent pas de rajouter des dates sur des salles beaucoup plus grandes et tout. C'est bien qu'il y a cet engouement et cette envie de cette nostalgie de revenir à ce qu'on a connu et nous on a fait le concert là avec on a fait les deux hein, avec mes copines mais on a fait celui avec Damien Cécilia Merwan qui chante contre ceux d'en haut, on avait 15-16 ans à nouveau, quoi, et c'était trop bien. Et pendant une soirée, il n'y avait plus de chéris, plus d'enfants, plus de. C'est voilà, on était redevenus des ados de l'époque, et c'était trop cool.
Ouais. Bah justement, une des personnes à laquelle je pense qui s'appelle Laura, et qui est aussi allée voir ce concert avec Merwan, Cécilia. Damien Sargue, et elle est retournée totalement dans cette période, et elle était super heureuse, alors que, voilà, depuis Le Roi Soleil, elle va peut-être pas forcément revoir beaucoup de comédies musicales, mais là, il y avait vraiment, comme tu dis, ce truc de la nostalgie, c'était tellement fort ce qu'on a vécu, sur des spectacles comme Le Roi Soleil ou Roméo et Juliette, que tu retournes, quoi.
Et sur Le Roi Soleil, je pense qu'encore plus, parce que en fait, c'était au-delà d'un spectacle.
Ouais.
C'était au-delà du spectacle en lui-même, au-delà de l'histoire des chansons. C'est tout ce qu'il y avait autour. C'est tout ce qui s'était... Je pense tout ce qui... Je dis, moi, j'ai pas vécu la même expérience sur Roméo et Juliette que sur Le Roi Soleil. Et ouais, c'était génial de pouvoir réentendre Damien et Cécilia chanter Aimer, mais ce qui m'a vraiment retournée, c'est Merwan avec Contre ceux d'en haut, parce que ça rappelait tout en vrac, les souvenirs qu'il y avait pu y avoir à l'époque, et tu repenses avec beaucoup de tendresse, parce que c'était une super période, c'était une très belle période.
Carrément, je sais pas ce qui s'est passé sur ce spectacle, mais parce qu'en plus, moi j'ai continué après, à en voir d'autres, c'était pas pareil. Je crois que peut-être Mozart, il y a eu un gros truc avec les fans aussi. Moi, j'en ai pas fait partie. Mais...
Je dirais que Le Roi Soleil a ouvert la voie aux autres.
Ouais.
Et en fait, chacun a son une expérience. Et je pense que ce que nous, on a vécu sur le Roi Soleil, d'autres l'auront vécu sur Mozart, d'autres ouais. encore l'auront vécu après sur 1789. Et je l'ai remarqué, ça, je me suis fait la réflexion, justement, à ces concerts-là, parce que on n'était pas les seuls à venir avec le groupe de copines de l'époque. Et je me souviens notamment, là, sur le dernier qu'on a fait à Mulhouse, vraisemblablement, le spectacle des filles qui étaient devant nous, c'était 1789.
Ah, génial!
Tu vois, et donc je pense qu'en fait, je sais pas, je pense que le Roi Soleil a ouvert la voie, qu'il y avait ce même facteur dans les autres. Après, c'est que simplement, nous, on n'était plus en phase
ouais, totalement.
Avec ça à ce moment-là. Et probablement qu'à partir du moment où tu vis une expérience comme ça, t'as du mal à te relancer dans une suivante.
Ouais, ouais.
Pour la revivre à fond. Alors, il y en a qui l'ont fait, hein, qui ont vécu très intensément sur le Roi Soleil et qui, après, sont partis sur Mozart, par exemple. Mais, ouais, moi, ça n'a pas été la même chose. Même si j'ai fort suivi Cléopâtre, notamment.
Ouais.
C'était pas la même chose.
C'était pas la même chose, ouais.
Voilà. Parce que j'étais pas dans... Pour moi, rien ne pouvait égaler la force de tout ce qui s'était passé sur le Roi Soleil.
Ouais, 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 c'est dingue. C'est dingue. Et c'est pas explicable, je pense, de toute façon. Enfin,
non,
ouais.
non, je sais plus, non.
Et c'est marrant, tu vois, l'épisode que j'ai fait sur le Roi Soleil, j'ai eu beaucoup de retours où, en fait, chaque personne avait un truc à me raconter. Sur même des gens pas forcément fans, ouais. Chaque personne avait un truc à me dire, bah ouais, je m'en rappelle, quand c'est sorti, moi j'étais en train de faire ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un truc à raconter, en tout cas, avec le Roi Soleil. C'est vraiment marrant.
Ça a été un raz-de-marée, hein. Mm-hmm. Ça a été un raz-de-marée. Ils ont... Enfin, quand on y pense, quand même, ils ont rempli le Palais des Sports toute une saison. Ils sont partis en tournée, ils sont revenus au Palais des Sports. Mmh. Ils sont repartis en tournée et ils ont rempli 5 Bercy.
Ouais.
C'est fou. Mmh. C'est complètement fou. Après, Mozart a fait la même chose derrière, hein, mais c'était... Pour l'époque, c'était quand même assez, assez ouais. dingue. Parce que aussi, il y avait toujours cette présence télévisuelle dans les promos, etc. Ils ont sorti quand même énormément de singles. Parce que si tu prends, par exemple, Roméo et Juliette, ben, finalement, après la tournée, on ne les entendait plus trop. Mm. Et,
C'est même sûr que le Roi Soleil, ils ont...
Voilà. Même
ils en ont sorti beaucoup.
Exactement.
Jusqu'au bout, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Jusqu'au bout. Même si il y a certains clips qu'on attend encore à sortir, mais sur les derniers singles qu'ils ont sortis.
Mais oui, c'était voilà. un coup de marketing en fait, ouais. pour rester sur les radios, quoi.
Enfin, d'un point de vue marketing, ils ont été extrêmement forts.
Mais ouais.
Ils ont été très intelligents. Je pense qu'ils ont perçu aussi tout de suite l'influence du forum, de ces réseaux sociaux de l'époque, finalement.
Ouais.
Et qu'ils ont très fort. Ils ont su prendre les virages au moment où il fallait les prendre. Et utiliser les outils qu'ils avaient à leur disposition. Puisqu'au début, ils ont mis quand même fort Emmanuel Moir en avant. Et à partir du moment où le spectacle a démarré, et que la popularité du personnage de Monsieur, et donc par extension de Christophe Maé, a commencé à grossir, demi-tour, et c'est Christophe qui était mis en avant.
Ouais.
Et parce qu'ils ont, ils se sont aperçus à ce moment-là du potentiel... qu'ils avaient à le mettre en avant pour ramener des gens. Et sur la fin, les gens étaient... Les fans hystériques étaient presque plus sur Christophe que sur Emmanuel.
Ah bah totalement. Ah oui, oui. Ah oui. Donc, ouais. Moi, je l'ai vécu comme ça, vraiment.
D'un point de vue marketing, ils ont été extrêmement...
Même au-delà de ça, je pense qu'il y avait vraiment un truc avec le spectacle qui fonctionnait parce que les gens avaient envie de le revoir après l'avoir vu.
Tout à
et
fait.
Ça, c'est fort. Moi, ça me rappelle un souvenir où j'étais en stage, tu sais, stage de troisième d'observation. Mm-hmm. Et je sais plus comment ça vient dans la conversation. Mon maître de stage, qui commence à dire « Ah bah, je vais bientôt à Bercy voir les deux dernières du Roi Soleil. » Et c'était une trentenaire, pas fan. Et moi, j'étais dégoûtée, du coup. J'étais verte. Moi, j'étais verte parce que moi, j'y suis pas allée, j'étais trop jeune. Ouais. Enfin, non, mm-hmm. je vais pas à Paris. Non, mes parents, ils me payent pas des spectacles à Paris. Et j'étais trop verte parce que je me suis dit, mais moi, c'est toute ma vie. Et il y a des gens, juste parce qu'ils ont envie de voir les deux dernières du Roi Soleil, et ben, ils y vont. Et en fait, je pense qu'il y avait vraiment ce truc de...
Ouais.
bah, on veut le revoir et c'est les dernières, c'est exceptionnel, ils sont géniaux et,
mais ça aussi,
et on y va.
Tu vois, là, tu parles des dernières, dans l'histoire du marketing, là aussi, c'était, je sais pas si tu te souviens, ils ont joué un coup de maître pour remplir leur Bercy. C'est-à-dire qu'ils annonçaient, parce que tout le monde, tous les fans, ultra fans voulaient être à la dernière.
Bah, à la dernière,
absolument.
Ouais.
Et donc, en fait, ils n'ont pas arrêté d'en rajouter. Ils avaient annoncé d'abord une séance. Je crois que la dernière, ce serait le samedi soir. Donc, tout le monde avait réservé le samedi soir. Et puis, ils ont rajouté le dimanche après-midi. Donc, les gens, même ceux qui avaient leur place du samedi, ont racheté pour le dimanche après-midi. Et ensuite, ils ont annoncé le dimanche soir. Et ils ont la vraie... Voilà,
bah,
la
tant
vraie
que ça se remplissait...
C'était le dimanche soir. Et moi, du coup, je m'étais arrêtée au dimanche après-midi. J'avais fait le dimanche après-midi.
Ah, d'accord.
Et avec une des deux amies, et c'était son papa qui nous avait emmenés sur Paris, à Bercy, pour la l'avant-dère. Et l'autre copine avait fait, pour le coup, la dère des dères.
Ah.
Et ils avaient rajouté un par un, et on était là en mode, mais ça suffit,
immense,
quoi. Surtout ceux, parce qu'au final, des gens qui auraient acheté uniquement la dernière, bah, ils se retrouvaient avec trois places, quoi.
Ah bah oui, non, mais, carrément.
C'est fou, et puis bon, quand tu vois le... Ça restait quand même un budget aussi.
Bah évidemment. Ouais.
Ça, on le voyait bien dans le... Parce que du coup, comme suite à ton podcast et à nos discussions, j'avais été voir le fameux documentaire de Tommy Pascal.
Ouais.
Et on voyait très bien dans le documentaire où il disait que voilà, c'était leur passion et tout leur argent. Après, voilà, argent de poche pour les plus jeunes, etc., passait là-dedans, quoi.
Ah bah oui, totalement. Mmh. Bah oui. Mmh. Carrément. Est-ce que tu aurais un top 5 des meilleurs spectacles que tu as vus? Enfin, qu'est-ce que... En comédie musicale, évidemment.
Français ou tout compris?
Bah non, je dirais tout compris, tu vois. En fait, je suis partie sur le top 5 parce que t'en as vu tellement plus, si tu veux, mais... pour conclure un peu, est-ce que t'aurais un petit top de ce qu'il faut absolument voir?
C'est super difficile parce que... C'est très compliqué parce qu'en fait je retrouve pas les mêmes choses dans tous les spectacles, et puis il y a certains spectacles qui vont être de la daube et que je vais quand même adorer parce que voilà, ça a ce facteur Cléopâtre, c'est l'exemple parfait, c'est un spectacle qui est bourré de défauts et pourtant je l'aime d'amour parce qu'on a j'ai plein de souvenirs dessus. Bon, dans le top 5, je mets Notre-Dame de Paris, ça c'est sûr.
Ouais.
Ça reste pour moi un spectacle à voir. Surtout, il y a peut-être cet aspect décor qui manque. Ça reste quand même très dépouillé. Mais vocalement, musicalement, c'est magnifique. Ouais. Visuellement, les danseurs, c'est des fous, ils sont incroyables. Donc Notre-Dame dans le top 5, ça c'est sûr.
Après, ça peut être des choix affectifs, justement.
Ouais, bien sûr.
Ouais. C'est très, très personnel. Hein.
Ouais. En anglo-saxon, il y a la comédie musicale Anne Juliet, qui vient de fermer à Londres, qui se joue à New York, en Australie. Ils vont démarrer une tournée en Angleterre aussi, que j'ai vraiment adoré. Là aussi, il y a un côté... Là aussi, il y a un côté régressif. En trois mots, c'est... On est dans l'Angleterre, Elisabeth. Alors, je ne vais peut-être pas dire de bêtises parce que je ne suis pas historienne. Et je ne sais pas trop, mais voilà, nous sommes à l'époque de Shakespeare. Shakespeare joue la première de Roméo et Juliette.
D'accord.
Son épouse, Anne Hathaway, qui s'appelle réellement Anne Hathaway, vient voir le spectacle et. Bon, c'est pas un secret, hein, Roméo et Juliette, tout le monde meurt. Donc là, elle est là en mode. Non, ouais, c'est pas très joyeux ton spectacle. Hein. Et si on changeait la fin? Et si Juliette... Roméo peut mourir, on s'en fout. Si Juliette, au lieu de se tuer quand elle voit que Roméo est mort, elle décide d'aller vivre sa vie et de faire ses choix. Et donc, en fait, c'est ça. Tu suis... Le point de départ de l'histoire, c'est ça. Et tu suis après l'évolution de Juliette. Donc, c'est très feel-good. C'est un côté très féministe. Et c'est, en fait, avec les chansons de Max Martin. C'est ce qu'on appelle un jukebox musical. Donc, fait, au lieu que ce soit des chansons créées pour le spectacle, c'est, donc il y a du Britney Spears, il y a du Katy Perry, il y a du Backstreet Boys. Donc, pour les trentenaires actuels, ça, là aussi, ça nous replonge dans notre adolescence, fin d'enfance, début d'adolescence, complet, quoi. Et non, c'est un spectacle qui est très positif, qui est lumineux, qui est vraiment... J'aime énormément. Dans le top 5, écoute, j'ai... Bon, Le Roi Soleil pour... voilà.
C'est bien, il y a quand même des spectacles français.
Ouais. à voir, dans les spectacles vraiment à voir, Starmania. Ouais.
Ah,
Starmania.
Ça tombe bien.
Ouais, ça tombe bien. Non, Starmania, parce que c'est incroyable. À tous les niveaux. À tous les niveaux. On sort de là un peu sonné.
Ouais,
je te cacherai pas. Toi, tu le connais beaucoup mieux que moi, ce spectacle, parce que moi, j'y suis allée un peu en mode... je connais les chansons. En fait, c'est un spectacle dont les chansons, finalement, ont vécu en dehors du spectacle.
Ah oui.
Puisque... même si tu ne connais pas l'histoire de Starmania, tu connais le blues du businessman, tu connais le monde des Stones, les uns contre les autres, mais tu ne les connais pas dans le contexte du show. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivée au spectacle, donc j'ai complètement découvert l'histoire, même si j'avais lu un peu des résumés sur Wikipédia, des choses comme ça, mais il y a longtemps. Et donc je me suis pris le truc en pleine figure, et je suis ressortie de là un peu... Ouais. Et vraiment, non, vraiment, c'est un spectacle incroyable, ouais. Très 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 grande qualité. Et c'est pas étonnant que les places se vendent à une vitesse folle, ouais. Parce que à raison, à raison. Ouais. Sinon, alors attends, on en a 4. J'hésite pour les deux derniers. J'hésite parce que j'aime beaucoup Wicked.
Bah oui.
Évidemment, parce que c'est le spectacle qui m'a introduit dans cet univers.
Ouais.
Et j'aime beaucoup Moulin Rouge. Je trouve que là aussi, j'ai une amie à ma maman qui est partie à New York il n'y a pas longtemps et qui sait que j'adore les comédies musicales et qui m'a appelée pour me demander, en me disant avec ma fille, on voudrait aller voir une comédie musicale, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Et donc, je lui avais donné trois options. Je lui avais donné Anne Juliet, je lui avais donné Moulin Rouge et Aladdin.
D'accord.
Parce que pour moi, c'est trois spectacles qui excellent dans les trois aspects de la comédie musicale, c'est-à-dire le visuel. Visuellement, c'est des spectacles qui sont fous, surtout Moulin Rouge et Aladdin. Moulin Rouge a le plus beau set, le plus beau décor que je n'ai jamais vu.
Ouais, ouais. Même moi, quand je regarde tes photos, je suis subjuguée.
Ça chante très bien. Les chorées sont vraiment belles. Alors après, évidemment, sur Anne Juliet et Moulin Rouge, c'est des chansons connues.
Hein, bah
ouais. C'est du jukebox, mais il y a cet ensemble, en fait, qui fait qu'on prend vraiment de plein fouet toute la magnificence de Broadway, aussi bien visuellement qu'auditivement. C'est compliqué, j'en ai vu tellement.
Bah oui.
Puis après, à côté de ça, t'as des plus petits spectacles, plus intimistes, dont on parlait tout à l'heure, comme 31.
Mais ouais.
Comme comédiens, totalement. Qui sont des bijoux, enfin, c'est des spectacles que, je te jure, je pense que 31, s'il le remonte, je vais au moins 3 ou 4 dates, je l'ai vu qu'une seule fois ce spectacle-là,
c'est vrai que
j'en garde un souvenir incroyable.
J'ai passé, je pense vraiment que c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu, vraiment, et pourtant c'est dans un mini théâtre, c'est fait... pas de bric et de broc, mais en fait, c'est fait tellement intelligemment avec
ça.
Très peu de choses.
Très minimaliste.
Très minimaliste. Par contre, ce qui en dégage et ce qui ressort, c'est énorme. Et moi, je m'attendais pas du tout à vivre ça en allant voir 31. J'allais juste voir Alexandre Petrouni.
C'est ça. Bah, moi, c'est pareil.
Voilà,
c'est
totalement.
C'est exactement ça.
En plus, c'était une comédie musicale parfaite. Mais voilà. Non, vraiment, c'est vrai que j'y pensais pas parce que là, on était partis sur des gros, gros spectacles.
Ouais.
Mais 31, carrément. Mmh. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs spectacles que j'ai vu. Tout confondu, quoi.
Enfin, ouais. C'est ça qui est chouette aussi dans la comédie musicale, c'est qu'en fait, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. T'as des grosses productions, des gros mastodontes, des gros blockbusters, des trucs très commerciaux. Et puis des choses beaucoup plus confidentielles, mais de très grande qualité. Et en fait, il y a de la place pour tout. C'est là qu'on voit que j'ai pris de l'âge parce que je disais pas ça il y a 10 ans.
Mais oui, oui.
Parce que c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à plonger dans les trucs anglo-saxons, j'avais cette espèce de franchement, ce qui se fait en France, c'est de la daube, c'est naze, etc. Et puis en fait, voilà, j'en reviens parce que parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde et il y a un public pour tout ce type de spectacle. Et puis, bah, si c'est pas quelque chose qui te botte, bah, tu vas pas, et puis c'est pas grave.
Ouais.
C'est comme les films, c'est comme les bouquins, il y a un petit force. Et puis, bah, parfois, dans des productions, c'est parce que justement, t'as des gros trucs qui vont te rapporter beaucoup d'argent, des gros spectacles, un peu comme le Roi Lion, qui vont remplir les caisses, qui vont te permettre de prendre des risques sur les saisons suivantes, avec des spectacles un peu moins... Qui ramèneront peut-être un petit peu moins de monde, ou dans d'autres théâtres, mais qui vont te permettre de prendre le risque.
Mmh.
Et donc, je sais plus, j'avais lu quelque part que ben voilà, c'était chouette de pouvoir avoir... Enfin, d'un côté, ils remplissaient les caisses avec le Roi Lion, ça permettait... De monter les producteurs, un spectacle où tu prends un peu de risque quand même, parce que sur le papier, les producteurs, c'est un peu bizarre comme truc. Et pourtant, c'est incroyable aussi, un spectacle de qualité complètement folle qui n'arrête pas de prolonger, qui est revenu pour une nouvelle saison. Mais c'était un risque à prendre. Et donc, parfois, bah, il faut ces grosses productions, ces trucs un peu plus commerciaux.
Mmh.
Encore que, bien sûr, il y a une différence entre un spectacle qui va... Et j'ai rien contre ce spectacle parce qu'il marche du feu de Dieu et je l'ai vu deux fois, donc c'est quand même que je l'ai apprécié, c'est Je vais t'aimer. Ça reste quand même... Il y a quand même cet aspect très commercial.
Bien sûr.
C'est encore différent du Roi Lion, mais il faut ces espèces de gros blockbusters qui permettent de développer d'autres choses et d'investir sur des paris un peu plus risqués, mais qui peuvent se transformer derrière.
Ouais, totalement.
Donc ouais, écoute, on va dire ça. On va dire le Roi Soleil pour l'affectif, Notre-Dame parce que Notre-Dame, Anne Juliette, Moulin Rouge. Parce que finalement, Moulin Rouge, en fait, j'ai vu tellement de productions que je l'ai presque vu autant que Notre-Dame de Paris. J'ai fait le compte il y a pas longtemps, j'étais choquée. Et 31, j'ai quand même envie de mettre 31.
Ah ouais,
ouais.
Excellent.
Ouais, non, 31, c'est à l'origine d'un des plus beaux moments que j'ai passé dans un théâtre. Je sais plus si c'est toi. J'avais fait une boîte à questions sur mon Instagram en demandant quels articles vous voudriez voir. Et quelqu'un m'avait suggéré de faire un article sur les moments les plus marquants que j'ai vécu dans un théâtre. Un peu à l'image d'un de tes épisodes de podcast.
Ouais.
Tu as fait les moments qui t'ont marqué. Je sais plus qui me l'avait suggéré. Je me demande si c'est pas toi, quand même. Et du coup, j'ai écrit cet article. Il n'est pas encore publié.
D'accord.
Je l'ai écrit la semaine dernière et 31 en fait partie.
Ouais, trop bien.
Ouais, 31 en fait partie.
Carrément. Bah ouais, bah d'ailleurs, on peut parler de ce que tu fais sur Internet.
Alors, j'avais un blog il y a quelques années que j'avais tenu pendant un ou deux ans peut-être, puis après beaucoup plus sporadiquement. Et puis j'avais laissé de côté. Mais j'aimais... Cette façon de pouvoir partager mon avis sur les spectacles que j'avais vus. Et c'était un peu avant le Covid, je crois. Je me suis rendu compte que j'avais plein de photos qui dormaient dans mes disques durs. Alors à l'époque du Roi Soleil, je piquais l'appareil photo de mon papa, parce que au Palais des Sports, on pouvait rentrer avec n'importe quel type d'appareil photo et on pouvait faire des photos du spectacle, même avec un appareil photo réflexe. Cléopâtre, c'était pareil. Ça n'a pas été pareil à toutes les...
Ouais, moi, j'avais pas eu le droit.
Bah, en fait, moi, j'avais fait la première de Cléopâtre au Palais des Sports. J'avais shooté comme taré sur tout l'acte 1. En fait, je pense qu'il n'y avait pas eu de directive qui avait été donnée. Mmh. Et un mec était venu m'arrêter à l'acte 2. Au milieu de l'acte 2.
C'est vrai que t'as eu des sacrées photos de Cléopâtre. Voilà.
Et ensuite, après, pendant tout le run au Palais des Sports, on pouvait faire des photos que sur le final. Mmh. On pouvait plus pendant le spectacle.
Ouais, ça, ouais, c'est ce qui m'est arrivé, moi, la tournée.
Pendant la tournée, alors là, sur les dates où j'avais pu avoir des bons appareils photo, donc beaucoup Cléopâtre au Palais des Sports et ensuite Roméo et Juliette au Palais des Congrès, j'avais quand même pas mal de photos qui dormaient que j'avais envie de partager. Et donc j'ai démarré un peu comme ça, Dracula aussi, en partageant un peu des photos et surtout quand, en plus, maintenant le West End s'ouvre énormément. Avant, c'était strict, mais. Là aussi, différence France, États-Unis, West End, une des différences fondamentales, c'est que nous, on a toujours eu ce droit de faire des photos.
Ouais.
Il y avait des DVD qui sortaient, des spectacles, après les spectacles. Là-bas, pas du tout. Pas du tout, du tout. Tu pouvais rien, absolument pas. Et là, ça commence à s'ouvrir. Tu as le droit de prendre des photos au final, avec n'importe quel appareil photo. beaucoup le West End. Broadway, c'est tout doucement, c'est compliqué. Hein. Pour l'instant, c'est que les téléphones, mais bon, ça vient, on y vient.
Bah, en même temps, ça aide quand même à la communication, hein, ouais. Les réseaux sociaux, voilà. Une petite photo du final, je suis allée voir ça.
Et puis, il y a des spectacles qui en jouent. Il y a un spectacle qui a ouvert la voie à Londres, qui s'appelle Six, sur les six femmes d'Henri VIII. Et à la fin, c'est ça, littéralement, dans la chanson, ils ont incorporé « Sortez vos appareils photo, vous allez vouloir filmer ça ».
Mais bien sûr.
Et ils ont joué à mort sur cette com-là, et ça a marché.
Mais ouais.
Ça a marché. Six a brisé les codes, à beaucoup de codes. Et pour beaucoup, pour le mieux. Et donc, ouais, ça a commencé comme ça. Je partageais quelques photos, et puis de temps en temps, je faisais un article sur un spectacle. Mais bon, le problème d'Instagram, c'est que tu peux quand même pas écrire beaucoup.
Non, non.
Et puis moi, on le voit, je parle beaucoup. J'ai beaucoup à dire, surtout quand c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu refaire un blog pour pouvoir raconter plus de choses sur les spectacles, ce que j'avais à en dire. Et du coup, j'ai énormément de matière maintenant qu'à Londres, on peut prendre des photos. Et en fait, j'adore ça. J'adore la photographie. J'adore pouvoir immortaliser un moment, une émotion, un geste. J'adore les photos de danse, les photos de danseurs. Je ne saurais pas danser, même si ma vie en dépendait. Donc, j'aime énormément les voir faire. Et c'est beau l'émotion qu'ils arrivent à dégager rien qu'en avec leurs gestes et l'émotion qu'ils mettent dans leurs gestes. Et donc moi j'essaie de fixer ça autant que je peux avec mon appareil et j'essaie de développer ça. Et donc voilà, donc il y a l'Instagram qui est maintenant purement photo. Et puis le blog qui me sert à poster mes avis sur les spectacles, des articles sur autre chose. Bah voilà, les moments bientôt à venir, les moments marquants. J'ai fait un article sur... Comment choisir sa place dans un théâtre, les bons plans pour acheter des places de spectacle à New York ou à Londres, comment faire pour payer moins cher, etc.
Tu avais fait un article aussi sur, je crois, les musées à voir ou les visites de théâtre à faire.
C'est vrai que j'avais fait des visites thématiques à New York avec la compagnie Broadway Up Close. D'ailleurs, j'en ai encore un à écrire parce que j'ai testé en janvier dernier une autre boîte qui est faite j'avais prévu un article aussi à ce sujet-là. Puis ils ont ouvert le Museum of Broadway aussi. J'avais fait un article là-dessus. Voilà, un peu des trucs. Et là, j'ai plein d'idées d'articles encore.
Trop bien.
Faut juste que je trouve le temps parce qu'il y a certains articles qui demandent un peu plus. Là, les articles que j'ai écrits, surtout, c'est mon ressenti. Donc, j'ai pas beaucoup de recherches à faire. Mais là, les quelques articles que j'ai en tête, il va falloir que je fouille un peu plus, j'étaye un peu plus ce que je raconte, et donc ça me demande un petit peu plus de temps.
Même, moi, les articles que je lis, je trouve qu'ils sont toujours assez documentés, ou que c'est très précis, et que tu donnes toujours des... Moi, je trouve que tu donnes des vraies sources, et c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai envie aussi qu'on en fasse la pub, parce que c'est... Voilà, t'as vu énormément de choses, et c'est une passion que t'as depuis longtemps, et je pense que t'es vraiment une source d'information. Et du coup, je trouve qu'ils sont vraiment super intéressants, les articles que t'écris et tout.
C'est gentil, donc, merci beaucoup.
Et moi, je trouve qu'ils sont assez documentés, enfin, que c'est pas forcément que du ressenti, ou en tout cas... Bah au moins ça peut diriger un peu vers ça en fait faudrait peut-être pas que j'y aille, ça faut que j'y aille absolument, enfin, donc c'est chouette à lire et belle source de comédie musicale.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venue.
Merci
jusqu'à
à toi.
Moi
c'était trop chouette, franchement. J'étais trop contente quand tu me l'as proposé et j'ai pas hésité une seule seconde parce que
trop bien,
c'était vraiment cool.
Une fois le micro coupé, nous avons discuté encore des rencontres que nous avions faites sur Internet à l'époque et nous avons beaucoup plus développé ensemble sur les risques et les limites à ne pas dépasser. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas été enregistré, alors cela nous a semblé important de faire un disclaimer. Attention aux rencontres sur Internet, vraiment. Dans notre cas, nous étions jeunes. Mais pour autant, nous avons rencontré quelquefois dans la vraie vie des personnes où nous étions absolument sûrs de leur identité et nous étions aussi encadrés par des adultes, par nos parents ou par la présence des parents de ses amis virtuels. C'était dans les années 2005-2010, et évidemment, il y avait déjà des risques de tomber sur des faux profils ou sur des personnes malveillantes. J'imagine aujourd'hui que c'est encore pire, avec notamment le fléau des filtres, où une personne, même à la webcam, peut avoir un visage différent et même un genre différent. Et je voulais également rappeler que la vie sur les réseaux sociaux ne reflète qu'une partie d'une réalité, ou même elle peut être totalement inventée. Bref, soyez vigilants, faites attention à vous. Ceci dit, merci d'avoir écouté cette discussion avec Caroline, j'espère que ça t'a plu. Je reprendrai la sortie des épisodes en septembre, petit break d'été. Cependant, je suis à la recherche de témoignages si tu as envie de participer et que je diffuse ta douce voix dans ce podcast. Tu peux réagir au thème des épisodes que j'ai déjà sortis, me raconter des anecdotes. Pour ça, tu peux me trouver sur Instagram et Facebook, La Joie de Camille. Je propose ça parce que je prépare un épisode bilan de mes meilleurs spectacles que j'aurai vus cette année pour l'épisode des 1 an du podcast qui sortira en décembre prochain. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait aussi d'autres personnes qui puissent distiller comme ça ses avis, ce qu'il a ressenti. Et notamment, si tu as vu Starmania et que tu souhaites en parler, envoie-moi tes vocaux. C'est sûr que tu as ressenti des choses folles en allant voir cette ovni de spectacle, élue tout fraîchement comédie musicale de l'année, et c'est tellement mérité. Voilà, je peux déjà spoiler et dire que j'ai envie de parler de ce spectacle et pourquoi pas diffuser aussi des ressentis d'autres personnes qui écoutent ce podcast parce qu'on n'en sort pas indemne de Starmania. Et voilà, bref, j'en parlerai beaucoup plus largement dans l'épisode de décembre, donc si tu veux participer, n'hésite pas à revenir vers moi. À très bientôt, bel été et encore merci pour ton écoute. Je te laisse avec quelques extraits du top 5 de Caroline.
Nous sommes plus de 1000 aux portes de la ville. Et bientôt nous serons 10 000 et puis 100 000. Nous serons des millions qui te demanderont asile, asile.
D'où viens-tu, belle étrangère? Du ciel ou de la terre, bel oiseau de paradis, que viens-tu faire par ici?
Oh, Amiens, nul ne sait le pays d'où je viens.
Si tu veux qu'on se prenne. près de toi, mon essentiel.
Il était une fois, tout commence comme ça, on prend son histoire,
il était une fois,
la vie comme elle va,
avec ses erreurs, ses manques et ses lois, pour croire le bonheur, souvent loin de soi.
There's something hanging in the stars for me.
We should rewrite all your plays.
Yes? These are the rats of the Latin Quarter, the starving artists and thieves of Montmartre, our own beloved Bohemia!
Watch out, you might get what you're after. Rouge, baby, strange but not a stranger. I'm an ordinary guy, burning down the house. Watch.
C'est encore un 31.
Quatre amis, des pizzas
et notre histoire en commun.
Ces réveillons-là, j'y tiens pas plus que ça. Hein. On est 9, ma mère prévoit pour 30.
Bah, te plains pas, nous on est 30 et ma tante prévoit pour 9.
Le jour où l'on se perd, où l'on ne sait plus rien,
quand les mots sont amers et le bonheur ancien,
on sait vers qui aller, vers ceux qui nous aident à sourire.
Anthony, parle-lui. Puis au moins tu seras fixé.
Je suis fixé. Il est pas et il sera jamais homo.
C'est vous, ma famille. Moi, quand je vous vois pas, j'ai personne.
C'est toujours la bonne heure, la bonne année, la bonne humeur. C'est toujours la bonne météo, la bonne chanson à la radio.
On est les quatre fantastiques et tant qu'on est ensemble, il peut rien nous arriver.
Oui, il faudra.
Comme on disait déjà.
Tant qu'on est ensemble, il peut rien nous arriver.
Aujourd'hui, on va changer d'air.
tout en changeant de millénaire. Et demain,
ces gens qui nous aident à sourire, ceux qui nous aident à sourire.
Mais t'attends quoi? Un signe du destin? Là, on serait dans Maggie, ce serait Ruben.
Ici, au son du piano et des voix, intolérance, idées préconçues et sarcasme facile se combattent en toute harmonie militante et musicale. Quand le texte rejoint la mélodie pour de justes causes, la force du message adressé à tous ne peut qu'inspirer respect.
C'est vous, ma famille, parce que la vraie, c'est pas une famille, c'est un élevage. Moi, quand je vous vois pas, j'ai personne. Alors, je me suis fait les amis que je pouvais.
Là, on parle de non-dits. De choses pas assumées, le spectateur s'associe, s'identifie complètement à un, voire plusieurs des quatre personnages.
Ça va tuer ta grand-mère, mais fais ce que tu veux, c'est toi qui sais le mieux, c'est entre toi et Dieu, tu fais ce que tu veux.
31, c'est une comédie romantique, donc qui parle d'amour et d'amitié, qui est drôle et qui est émouvante à la fois. Mais à la place de quatre mariages et un enterrement, on a quatre amis et un coming out quelque part.
Eh ben, elle commence bien la babysitter. 7 minutes de retard.
Ouah, vous êtes Mary Poppins?
Et mon cul, c'est du gouda?
Ce remarquable et touchant plaidoyer humaniste est un réel bonheur. Texte utile et intelligent, mélodie soignée, interprète au plus juste. Cette pièce musicale surprend et nous bluffe, tant par la force du fond que l'unanime performance de la prestation. Tout est réuni là, sur cette petite scène, pour le meilleur et dans l'intimité d'une mise en espace finement élaborée. Du beau travail.
Apparemment, on pleure et on rit.
Ouais.
C'est ce que tout le monde nous a dit.
Comédie dramatique amicale. Voilà. Vraiment avec, comme à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a quand même un happy ending, mais... ça passe par des un peu de suspense, un peu des rapports humains, quoi.
Et ça chante.
Et ça chante, parce que comédie dramatique musicale. Entre parenthèses. Vas-y, mets la musique.
Choisis ce que tu veux.
Je pourrais être une fée.
De parler d'homosexualité au théâtre, parce qu'on en parle quand même peu. De raconter un parcours entre deux hommes qui n'est pas courant. Voilà, c'est simplement un homme qui est ouvertement homosexuel, qui s'est accepté tout de suite, et puis un autre qui se cherche. À partir du moment où quelqu'un vous élève, quelle que soit la personne, et que cette personne vous donne de l'attention et de l'amour, on se construit.
Quatre initiales assassines ont signé leur crime et changé la donne de nos élans intimes. Transformer l'amour en un champ de mine, triste anniversaire où vous ne viendrez pas pour fêter la fin d'une drôle de guerre sans armes et sans soldats contre un adversaire d'ombre et de chair endormi dans vos bras. Si la nostalgie de nos années-lumière s'éteint jamais jusqu'au dernier jour, chers amis de poussière, je garderai tous mes souvenirs inconsolables et gais. Chers amis du temps passé, si vous m'entendez, sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver? Sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver? Sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver?